Céline, vous avez choisi ce texte de la première épître de Jean. S'il en est parmi vous qui ont machinalement, j'ai presque envie de dire mathématiquement, fait le compte, il ne contient pas moins de 29 fois la notion de l'amour. Vous m'avez aussi expliqué, lors de la préparation, l'importance de ce que vous désirez transmettre, vous et Fabien, son papa, à Guillaume. L'amour et les valeurs de l'amour mises en pratique, effectivement, dans les actes de la vie, sont une sorte de viatique spirituelle, existentielle, que vous souhaiteriez donner dans sa vie future à votre petit bonhomme. Et cet amour, dès sa naissance, il l'a reçu. De Dieu, certes, et c'est notre conviction, mais aussi de vous, ses parents, confrontés à un début difficile quant à sa santé. D'où la symbolique très forte du deuxième prénom, Vital. Vous souhaiteriez qu'il sache, lui aussi, témoigner de ce qu'est cet amour, le redonner, tout autant en direction de la nature, en s'émerveillant devant, en la respectant, en la rencontrant et surtout en la protégeant, que vis-à-vis des êtres qu'il rencontrera tout au long de son existence. Je souhaiterais cependant remettre ce texte dans son contexte d'écriture et rappeler que cette lettre s'adresse à une communauté qui est en difficulté. Elle est confrontée à des religieux ou des maîtres spirituels, se croyant les maîtres de l'amour de Dieu. Leur prédication peut ressembler d'ailleurs à bien des prédications de tous les temps, d'aujourd'hui encore. Dieu nous aime, il a envoyé son Fils unique afin de sauver le monde. Jusqu'ici, rien de trop compliqué ni choquant. Et même le texte dans les versets 8, 9 et 10 peut être relu de cette manière-là. Je vous lis les versets 9 et 10. C'est en ceci que l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Et cet amour, ce n'est pas que nous, nous ayons aimé Dieu, mais que lui nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme l'expiation pour nos péchés. Là où le bas blesse, c'est que ces personnes considèrent, comme dans les religions primitives, que le sacrifice est juste là comme un moyen de s'assurer la protection de la divinité vers laquelle nous faisons le sacrifice. Ce sacrifice peut être celui d'un animal, voire d'un humain, et dans beaucoup, beaucoup de cas, c'était aussi le premier-né de la famille. Croire en la notion de sacrifice expiatoire pour les premières communautés chrétiennes d'origine juive, dont était celle de la première épître de Jean, n'était pas du tout cela. Elle ne pensait pas à un moyen magique de se purifier de ses péchés. Le sacrifice était plutôt une façon de célébrer un rite de pardon. Ainsi, la mort de Jésus était considérée comme un sacrifice, puisqu'elle était acceptée par Dieu et qu'elle était comprise par chacune et chacun comme sacrifice expiatoire, dans la mesure où elle permettait de comprendre qu'au-delà de la mort de Christ, son œuvre dans le monde et pour le monde accompagnerait l'humanité tout entière en permanence, demeurerait donc. En quoi cela nous accompagne-t-il aujourd'hui, 2017 ? En comprenant sans aucun doute le verset précédent, celui qui parle de sacrifice expiatoire. Je vous le relis encore. Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour que nous vivions par lui. Comment pouvons-nous vivre par lui ? Par Christ. En vivant de ce qu'il a enseigné, de son choix de vie. En comprenant que la seule vraie vie possible pour l'homme passe par l'amour. Le regard tourné vers qui n'est pas soi. Être ainsi décentré de sa personne. Être capable du don de soi, de sa vie s'il le faut. Comme Christ n'a pas résisté à la croix, ni Dieu ne l'en a fait descendre magiquement. Et ceci, vivre par Christ, c'est en recevant, en donnant, en redonnant, en témoignant et en affirmant l'amour. Mettre sa confiance, sa foi en Dieu, c'est suivre les pas de cet homme, Jésus. C'est vivre de respect et d'amour, vous l'avez redit, vous les parrains et marraines, et le texte de Kipling le redit aussi à sa façon, pour chaque autre être humain sur terre, à la manière dont Jésus lui-même a accueilli, accompagné chaque personne qu'il croisait. Non pas seulement en prononçant des paroles de foi, mais en exprimant ce qui est le moteur de notre existence. Les confessions de foi, celles que je vous ai lues dans l'évangile de Matthieu, nous en est une, nous indiquent bien que les gens ne considèrent pas Jésus comme étant Dieu venu au monde dans un homme, comme c'était dans les textes mythologiques, mais qu'ils le considèrent comme un envoyé de Dieu. Ils parlent d'Élie, un prophète, de Jean-Baptiste, un prophète aussi, de Jérémie, encore un prophète. Ces prophètes sont morts, mais leur retour par Dieu sur terre ne semblait pas faire de problème dans leur esprit, car pour eux, ces prophètes vivaient encore avec eux, dans leurs esprits, au-delà de leur mort physique. Et leurs confessions ne sont pas seulement des affirmations d'obéissance quelque peu statiques, mais des obéissances en actes, en mouvement, en décisions fortes pour l'existence dans le monde qui entoure, à la manière donc des prophètes anciens. Mais alors, l'avez-vous entendu, la question de Jésus devient plus pointue. Pour vous, chacun en son fort intérieur, dans l'expérience de sa vie, qui suis-je? La réponse de Pierre jaillit, sans avoir besoin de monter un raisonnement. Elle jaillit, car il s'agit là de sa vie, sa propre vie. Et c'est bien le sens de la réponse de Jésus. Cela te vient de bien plus loin. De bien avant ta vie biologique, cela te vient d'un amour qui t'a précédé, dirait l'auteur de l'Épître, celui du Père, celui de Dieu. Cela te vient de ce qu'il t'est donné pour que la vie, ta vie, la tienne et celle du monde, ait un sens. Et c'est Dieu qui te le donne, nous dit Jésus. Comme un père qui donne tout à son enfant pour vivre. Comme une mère qui porte et attend tout de son enfant, comme nous l'avons lu dans la confession de foi. Ce texte est donc un texte à lire et à comprendre au sens communautaire. Une communauté n'existe que si chacune et chacun de ses membres existe. Et que chacune et chacun est un maillon essentiel, indispensable à la communauté. Aussi, le baptême est-il un acte communautaire. Vous, paroissiens de cette paroisse, chrétiens de passage aujourd'hui dans ce temple, vous, vous avez bien compris que vous êtes concernés. Chacun, individuellement, devant Dieu. Car vous êtes responsable de vos mots et de vos actes devant cet enfant. Vous êtes attentif à ce qu'en toute liberté, lorsqu'il deviendra un jeune adulte, il ait de quoi prendre sa décision tout seul devant Dieu, comme Pierre ou les autres disciples. D'ailleurs, avec une pointe d'humour, nous pouvons nous rendre compte que les autres disciples ont été bien silencieux quand Jésus a dit « Et vous » pour chacun de vous. Et vous pouvez aussi vous rendre compte que Jésus n'en a pas tenu compte en accusant qui que ce soit. Au contraire, il a l'écoute et la patience. Être responsable et attentif, cela ne signifie pas enseigner à la manière des hommes, comme nous en enseignons dans des lycées, dans des collèges, dans des universités, ou même, comme certains parlent, d'écoles religieuses, non. Donnant des leçons de morale, non, ce n'est pas ça. Être responsable et attentif, cela signifie vivre et témoigner de ce que Guillaume pourra recevoir comme la vérité de chacune de nos vies, témoignant de l'amour de Dieu pour l'homme, en aimant ses frères, ses sœurs, chacun. Pour vous, Céline, il est important que Guillaume soit baptisé. Cet acte communautaire rappelle à chacun, chacune dans la communauté, que s'il est là, c'est parce que d'autres y furent avant et ont transmis. Ce mouvement, c'est leur réponse à Dieu. Il exprime que si les liens dans la communauté sont forts, c'est parce que l'amour qui la fonde et fonde chacune et chacun de ses membres est déjà là, posé sur chacune et chacun. Cet esprit demeure, il fait sa demeure et n'abandonne jamais celui en qui est le souffle de vie possible. Et nous avons ici les deux composantes sémantiques, celle temporelle et l'autre de lieu, du verbe demeurer. Merci Céline, de la part de toute la communauté, de nous avoir donné à réfléchir sur le sens de la communauté exprimée en ce texte de l'Épître de Jean. Merci d'avoir ravivé en nous le sens de cette espérance, car il s'agit bien là d'espérance et de promesses. Chacune, chacun, dans ce choix d'une vie ancrée dans l'amour, est fort, d'une force permettant d'affronter toute difficulté de l'existence, même si elle mène à la mort, que ce soit la mort d'un proche ou sa propre mort. Que l'amour de Dieu demeure en vous, en chacune et chacun de vous. Amen.